Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Sur la pochette de l'album, ils affichent tous les deux des sourires de bon aloi. Chacun d'eux tient une plume de paon dont l'œil se confond avec le leur. Et sur les photos du livret, cette même bienveillance se lit dans leur regard. Une bienveillance, une chaleur humaine que l'on retrouve dans leurs chansons ciselées, bucoliques, parfois empreintes de la bruine marine de leur Bretagne d'adoption. Lily Crow et Thierry Chazelle, couple à la ville et duo sur scène et en studio, sont avec nous. Leur album fait du bien. Il s'agit du cinquième album, 12 titres aux couleurs pop et folk, dont le titre sonne comme un conseil plein de gentillesse. Soyez heureux. Il est disponible chez Sophia et vous m'en direz des nouvelles. Thierry Chazelle sont donc avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Soyez heureux. C'est donc le titre de ce morceau qui est le dernier de l'album et qui lui donne son nom avec cette question. Comment faire pour être heureux? Est-ce que vous avez trouvé la recette?
Ah là là, c'est très chouette en fait de l'écouter maintenant dans le contexte actuel parce que...
Oui, on se dit, soyez heureux en ce moment, c'est presque de la méthode Coué, quoi.
Oui,
c'est de la méthode Coué. Mais en fait...
Alors vous avez trouvé la recette ou pas? Parce que moi j'ai quand même envie de savoir, attendez.
En tout cas, on nous a offert la question, parce que c'est un ami à nous qui a demandé à nous voir avant qu'on monte sur scène. Et il est venu nous voir dans les loges et il nous a offert son banjo. En disant, voilà, je n'en jouerai plus. Et donc, j'ai pensé qu'avec vous, il sera entre de bonnes mains.
Et donc, sacrée responsabilité.
Sacrée responsabilité. Coup, ouais. Et puis, transmission très émouvante. On était émus. Et Lily a demandé ce qu'on pouvait faire pour le remercier. Et nous a répondu, soyez heureux.
Alors, soyez heureux, justement, concrètement. Ça veut dire quoi, être heureux? C'est presque une question de grand oral, de bac philo. C'est un peu la période. Hein.
Oui, mais déjà, ça met la pression quand même. Quand on vous dit ça, soyez heureux.
Alors ça, je ne sais pas s'il y a un téléphone qui sonne,
non,
visiblement dans le coin. Je ne sais pas. Bah, moi non plus, personne ne comprend. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça nous fait rire et sourire. Donc c'est peut-être pas mal d'être heureux. Voilà. Donc, alors, ça veut dire quoi, être heureux, alors, pour le coup, Lily?
Alors, je dirais que C'est un choix pour moi. C'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit décider peut-être. D'ailleurs, moi, j'aimais beaucoup Camus quand il disait que... Attendez, il y a un truc. Non, c'est pas moi, vraiment, je suis...
Oh. Bon, alors attendez, musique sur RFI, oui, on se retrouve dans un...
Ça y est.
Sous l'encolure d'un Eden vert, y a la carcasse d'un voyageur qui pousse la porte, on est ouvert tous les jours à la première heure. Un café noir au bout du bar et de l'eau fraîche dans un grand verre. Tu sers toujours la même histoire. Oh, il finira bien par me voir. Sous le laudan vert fatigué, y'a un poète en bandoulière qui griffonne les nappes en papier. Moi, faut que je dresse le couvert. Y'a un accro à son revers. Il écrit, je remplis son verre. Je passe un chiffon sur le comptoir. Oh, il finira bien par me voir. Il finira bien par me voir. Comme un désert, l'été, le printemps, l'univers. Je lui dis salut, je m'appelle Agathe. Il regarde un vieux pigeon qui boite dans une des poches du Loden vert. J'aurais voulu glisser un mot, mais il va finir.
Le Loden Vert, Lily Crowe et Thierry Chazelle qui sont avec nous et désormais sans alarme, c'est promis, dans VMDN sur RFI. Mais peut-être que vous avez un Loden Vert, Thierry Chazelle ?
Oui, j'en ai eu un pendant plusieurs années.
Avec un accro au revers aussi.
Oui, qui a fini bien, bien râpé parce que je l'ai gardé pendant plusieurs années. D'ailleurs, j'ai appris par la suite qu'on s'était un peu moqué de moi parce que j'étais habillé...
Bon.
Été comme hiver avec mon Loden.
Ah ouais. Voilà. Et vous griffonnez les nappes en papier aussi
comme
dans la chanson, ouais, ou
oui,
dans un cahier neuf, parce qu'il y a une autre chanson qui s'appelle Un cahier neuf. Donc vous préférez écrire dans un cahier neuf ou sur une nappe en papier ?
Alors j'aime bien écrire dans les cafés de manière générale. Et j'essaye de ne pas oublier mon cahier. Mais quand j'ai plus de cahier, bon bah, je me débrouille avec ce que je trouve.
Ouais, et on se rend compte, hein, Lily Crowe, qu'écrire une chanson, ce n'est pas simple du tout. Alors, on a reçu quelques écrivains dans cette émission. Et certains d'entre eux ont noirci des pages et des pages de romans. Ils ont aussi écrit des chansons. Et ils nous ont dit, hein, ces écrivains, à la fois romanciers et auteurs de chansons, à quel point l'exercice était différent, à quel point écrire une chanson, c'était compliqué, c'était exigeant, c'était difficile. Qu'est-ce qui est le plus simple et qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous dans l'exercice d'écriture ?
Je pense que réduire en fait tout ce qui nous passe par l'esprit ou ce qu'on veut évoquer à travers un thème à quelques mots, quelques phrases, c'est ça, aller à l'essence, c'est le plus difficile, tout en restant concret. Donc voilà, l'économie, le concret et être surprenant aussi. Voilà, c'est un condensé de ces trois choses.
Mais alors le point de départ, c'est les mots. Vous racontiez tout à l'heure l'histoire de cet homme qui vous avait donc offert son banjo, Thierry Chazelle. Une chanson, ça commence toujours par des mots, par une petite scénette, par un vécu concret dans votre existence à tous les deux.
René Char disait que chaque poème est marié à une personne et je trouve que c'est assez vrai pour les chansons aussi. Souvent, dans nos chansons en tout cas, Bon, évidemment, il y a les chansons d'introspection où on parle de soi-même, mais dans nos chansons, ça, c'est plutôt lié à des rencontres, c'est plutôt lié à des personnages, à des situations qu'on a vécues, et des choses qu'on a envie de, dont on a envie de transmettre l'émotion.
Oui, parce que chaque chanson est une petite nouvelle, en fait. Un album, c'est une sorte de recueil de nouvelles.
J'aime bien aussi l'idée du court-métrage, parce qu'il y a beaucoup d'images dans les chansons, en fait. Enfin, celles que j'aime bien, en tout cas.
Texte et musique, vous faites tout à quatre mains ?
Alors, les textes, on écrit chacun de notre côté.
Oui, séparément.
Séparément.
Voilà. Vous, et ensuite, il y a une mise en commun. Voilà, c'est un peu comme dans.
Et après, on vient timidement, avec toujours une petite appréhension auprès de l'autre, en disant voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses ?
D'accord. Ça veut dire que vous avez besoin d'être seul pour écrire les textes.
Toujours.
Pour l'écriture, oui, c'est quelque chose qui est solitaire. Et puis, par contre, pour la musique, il y a peut-être un côté un peu plus ludique ou spontané ou d'improvisation. Et là, on trouve qu'on est meilleur à deux.
Oui, il y a du jeu entre nous. En fait, on joue.
Donc on joue et donc l'idée c'est de surprendre l'autre.
Oui aussi, oui. Et puis chacun amène une petite amélioration en général, que ce soit à la mélodie ou à l'harmonie. Moi je suis plutôt mélodiste, tiré plutôt dans l'harmonie, donc ça se complète bien.
Bon, et en cas de désaccord, qui c'est qui tranche ?
Alors maintenant on a tendance à dire, s'il y en a un des deux qui trouve pas ça bien, on a confiance. On se dit, ça doit pas être bien finalement.
Et donc on abandonne, on passe à autre chose. Alors on laisse le texte dans un tiroir et on se dit peut-être qu'il va me servir, ou bien on le jette directement à la poubelle et on passe à autre chose.
Avant, on conservait tout et puis maintenant on a confiance, on se dit non, si l'autre a pas réagi, c'est qu'il faut passer à autre chose.
Petite chanson légère, viens troubler mon sommeil quand tu voudras être chantée. Et fais pas des manières si t'as des choses à dire, ok tu peux me réveiller. Mais peut-être que t'as le blues, que t'es triste à pleuvoir, viens pleurer dans mon encrier. On chassera les nuages qui t'a broyé du noir, on jettera l'encre sur le papier. Y'a des chansons qui paient pas de mine, des chansons colibris. Y'a des chansons qui sauvent des vies. Non, y'a pas de petites chansons. Y'a des chansons qui n'ont peur de rien, des chansons coyotes. Y'a des chansons pour la révolte. Non, y'a pas de petites chansons. Petite chanson colère, viens brailler sur le zinc quand tu voudras être entendu. Je t'attends entre deux verres, un stylo à la main, j'ai tout mon temps et je suis têtu. Mais peut-être que t'es aux anges, ton cœur est à la fête, à faire valser toute la planète. Je t'entends courir les rues, fais pas ton ingénu, c'est toi qui resteras dans nos têtes. Y'a des chansons qui paient pas de mine, des chansons colibris. Y'a des chansons qui sauvent des vies. Non, y'a pas de petites chansons. Y'a des chansons qui n'ont peur de rien, des chansons coyotes. Y'a des chansons pour la révolte. Non, y'a pas de petites chansons.
Les chansons Colibri, Lily Crow et Thierry Chazelle dans VMDN sur RFI, avec ce leitmotiv qui s'affiche sans complexe. Il n'y a pas de petites chansons. C'est votre réponse à ceux qui mépriseraient la chanson populaire. Il y en a encore en France aujourd'hui.
Exactement, c'est un bien commun, collectif, une chanson. Il y a des chansons pour tout. Des chansons pour s'amuser, des chansons pour faire la fête, pour faire les idiots, pour la danse des canards. Il y a des chansons aussi pour déclamer son amour, se rouler par terre, se révolter. Voilà.
Alors vous êtes un couple à la ville depuis l'an 2000, vous me dites si je me trompe dans les dates parce que c'est vraiment pas mon truc. Hein.
C'est ça.
Un duo à la scène depuis 2008, un premier album à deux en 2011. Est-ce que c'est grâce à la chanson que vous vous êtes rencontrés ?
Oui, oui, oui. J'ai la première fois que j'ai aperçu Lily, elle était sur scène. Et elle chantait avec un chanteur que j'aime beaucoup. Elle faisait les chœurs et la basse. Mmh. Et j'étais complètement fasciné pendant tout le concert par D'accord. cette musicienne extraordinaire.
Voilà. Et tout de suite, là, l'idée vous est venue de former un duo et donc de casser son duo à elle.
Alors non, pas du tout, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que Lily avait son propre projet, un groupe de rock que j'aimais énormément, dont j'étais fan. Et donc, au contraire, je refusais absolument de faire de la musique avec elle. Mmh. Et puis, moi, j'avais mon groupe aussi de chansons. Et puis, un jour, on s'est retrouvés sans aucun concert en vue, sans travail, en quelque sorte. Et là, il y a une programmatrice, une directrice de festival du Québec qui nous a appelés et qui a invité Lily. Et comme il y avait très peu de moyens, elle savait qu'elle ne pourrait pas venir avec ses musiciens. Et elle a menti en disant qu'elle avait un duo avec son mari, ce qui était totalement faux.
Oui, sauf que vous êtes quand même musicien, parce que vous jouiez à l'époque de la guitare et de la mandoline. C'est ça, là, vous avez donc rajouté le banjo, c'est ça ?
J'ai rajouté le banjo.
Oui, le banjo et la mandoline, c'est la même chose, finalement ?
Pas du tout.
Pas du tout. Voilà. Bon, vous avez fait le conservatoire aussi, quand même, donc parcours assez classique, quand même.
Oui, en fait, j'ai toujours eu une double école, l'école de la cour de récré, où j'apprenais à chanter des chansons avec les copains. Et puis une fois par semaine, j'allais au conservatoire où j'apprenais tout autre chose. Mais les deux enseignements m'ont été assez utiles.
Là, pour le coup, ils sont bien mariés. Alors vous, Lily, vous jouez de la basse et des percussions corporelles. Ça veut dire que vous avez le corps percute bleu.
Plus maintenant, il est habitué maintenant.
Est-ce que le corps, c'est un instrument comme les autres?
Oui, d'ailleurs, on avait fait un stage de body music en Italie. Où en fait, effectivement, avec la voix, on peut imiter plein d'instruments, on peut faire plein de choses. Tout le corps sonne, que ce soit des pieds à la tête, on peut faire des sons très...
Alors
très
vous pouvez nous faire un ou deux sons là, devant le micro. Voilà, donc ça c'est la joue et la bouche. Bah, voilà.
Bon, il y a plein de choses à faire. Là, j'étais pas prévu. J'avais rien prévu.
Bon, là, on est dans la percussion, on est d'accord. Oui. Il paraît que vous avez inventé un instrument très original qui s'appelle le tapadonf.
Oui, le tapadonf.
Alors, c'est quoi le tapadonf? Ça ressemble à quoi?
Il s'agit de taper dessus à donf, donc.
Ouais. D'accord. Au moins, c'est clair. Hein.
Au moins, c'est clair.
L'apprentissage est assez simple, alors.
Oui, l'apprentissage. En fait, c'est un instrument qui ressemble à un plancher, mais qui fait un son de grosse caisse. Et c'est un instrument acoustique, donc il m'a fallu 7 ou 8 prototypes avant d'arriver à faire le son que je cherchais. Et l'idée, c'était qu'il soit invisible sur scène, qu'on ne se rende pas du tout compte qu'il y a cet instrument et qu'au bout d'un moment dans le spectacle, il arrive ce boom qui dynamise nos chansons et qui permet d'avoir une gestuelle scénique un peu particulière.
Mais il est inspiré en fait des danseurs de flamenco qui ont aussi des carrés de parquet. Alors, ce n'est pas du tout la même technologie en fait, qu'a développé Thierry, mais c'est un peu l'idée au départ.
Mes pas résonnent sur les allées de granit. Au lever du jour, c'est l'été qui nous quitte. Le soleil miroite dans les plaques immobiles. Et septembre ruisselle ses larmes de crocodile. Je file et je trace et je tourne en rond dans les rues de mon île, en large et en long. Je vais, je dévale et en croix et en rond dans les rues de mon île, dans les rues de mon île. Je caresse les murs, il fait froid dans les venelles. Va falloir se couvrir de pulls et de flanelles. Les volets sont fermés, les chemins respirent. Les boutiques ont remballé tous leurs souvenirs. Je file et je trace et je tourne en rond dans les rues de mon île, en large et en long. Je vais, je dévale et en croix et en rond dans les rues de mon île, dans les rues de mon île. Hey. J'ai pris le sentier jusqu'aux enclos de bruyère. La plage est à moi, je suis nue sur la terre. La mer est partout, je ne veux plus qu'elle ait son souffle amoureux, ses couleurs d'aquarelle. Je file et je trace et je tourne en rond.
mon île en large et en long. Je vais, je dévale et en croix et en rond dans les rues de mon île, dans les rues de mon île.
Les rues de mon île, Lily Crow et Thierry Chazel. Et cette île, c'est l'île aux Moines en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. C'est même la plus grande île, hein, je parle sous votre contrôle, du golfe du Morbihan. Alors vous, Lily, vous êtes d'Agen, dans le sud-ouest de la France. Vous, Thierry, vous êtes né au Havre, en Normandie. Comment cette île bretonne est-elle devenue la vôtre ?
Quand j'ai rencontré une fille du Sud, je me suis dit, c'est formidable, je voulais vivre dans le Sud. Et première chose que m'a dit Lily, moi, je rêve de vivre en Irlande.
Alors bon, ah oui, y avait donc il a fallu faire un compromis.
Il y avait comme un compromis à faire. Et c'est vrai qu'au moment de partir de Paris, on a cherché une région qui nous avait particulièrement touchés. Bon, c'était le golfe du Morbihan.
Alors, habiter sur une île, autrement dit, être coupé du continent, ça change tout, y compris quand on écrit des chansons.
Oui, c'est vrai. Bon, après, cette île, il y a 5 minutes de traversée, hein, donc il faut relativiser.
Oui, on n'est pas complètement isolé non plus. Mais quand même, il y a toute une atmosphère quand, oui, même, quand on met le pied sur une île. Hein.
Oui, et puis quand, oui, c'est ça. Quand on revient, par exemple, de tournée, qu'on a vu plein de monde, qu'on est là à l'embarcadère à attendre le bateau pour traverser, déjà, il y a un sas de décompression. La nature est omniprésente. L'hiver, peu de monde. Nous, ça nous va très bien parce qu'effectivement, on côtoie quand même beaucoup de monde la plupart du temps. Et puis, on a cet espace voilà, où on peut se retrouver, où on peut écrire à partir des choses qu'on a compilées lors de nos rencontres.
Alors, vous côtoyez beaucoup de monde parce que la scène, c'est aussi très important pour le duo que vous formez. À chaque album, le spectacle qui va avec ?
Oui. Oui.
Donc, ça veut dire que quand vous écrivez des chansons, vous pensez tout de suite à les rendre aussi scéniquement intéressantes ?
Oui, c'est vrai que le duo s'est formé sur cette idée que la scène était prédominante. On est peut-être un peu moins pensé sur celui-là parce qu'on était vraiment sur notre île et dans une espèce d'introspection. Mais c'est toujours relié à un spectacle, oui, à une histoire qu'on raconte. C'est très important pour nous.
Oui, alors c'est du sérieux parce que vous avez fait des stages de clown, travaillé l'écriture dramatique, vous avez fait un stage de burlesque avec le belge Osouben, spécialiste de l'art du rire. Interpréter une chanson, quoi. C'est le mot interpréter, quoi. C'est pas un vain mot.
Ah non, c'est un chemin, c'est un travail aussi, on peut le dire comme ça.
Oui, et puis il y avait cette révélation aussi, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs fois le Festival d'Avignon, et on a découvert un certain nombre de choses aux côtés desquelles on était passé, comme le clown théâtre, les arts du cirque, toutes ces disciplines en fait de la scène. Et on s'est dit que finalement, dans la chanson, on était un peu pépère, arrivé toujours en disant « ouais, ça va, faites du bruit », tout ça. On s'est dit « non, on a mieux à faire sur une scène » que reproduire ces codes qu'on a déjà entendus mille fois dans les concerts.
Mais ça veut dire que Lily et Thierry sur scène, ce sont des personnages ?
Ah non, alors c'est nous, en version plus scénique, on va dire, mais tout est, par exemple, dans le spectacle actuellement, on raconte pas mal d'histoires et d'anecdotes qui nous sont arrivées, mais tout est vrai. Sauf qu'on le raconte, on raconte pas tout, par exemple. On est concis, on édite en fait quand même un petit peu ce qu'on dit. On y a pensé, quoi.
De la pointe au canon, aux eaux de Savoyard. Chaque pierre raconte l'histoire d'un marin. Des chemins du diamant aux dunes de l'Anglade, les herbes sont couchées sous le poids des secrets. Viens t'en parler aux vagues, viens t'en parler au vent. Écoutez la réponse au chant du goéland. Viens t'en parler aux vagues, viens t'en parler au vent. Les larmes sont petites dans Viens t'en parler aux vagues, viens t'en parler.
on reste avec les îles avec cette chanson Le Goéland, sauf que là on est donc de l'autre côté de l'Atlantique, hein, du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon et du côté de Miquelon plus précisément, l'une des deux îles de l'archipel, pas loin du Canada. C'est votre résidence secondaire?
Je crois que Thierry serait pas d'accord pour le coup.
Non, parce que là c'est vraiment pire,
c'est pas le même climat. Ouais. Comment est-ce que vous avez découvert Miquelon?
Ben, on a été invité en fait pour jouer dans un festival, pour chanter dans un festival, et on a découvert cet incroyable lieu qu'est Saint-Pierre, et cet incroyable lieu qu'est Miquelon. Et puis toutes les légendes, on a eu la chance de rester un peu de temps. Donc petit à petit, les langues se sont déliées, on nous a raconté toutes les histoires, des fois parfois terribles, hein, des marins et des gens qui ont vécu là, qui ont pêché la morue, qui l'ont fait sécher sur des étendues de pierre. Enfin, c'est un truc...
C'est une vie extrême, en fait. Dans les familles, les histoires, je ne vois pas d'autre mot extrême. Ouais.
Ouais. Et alors donc, on marche sur la cime des arbres sur ces îles, parce que les arbres sont tellement petits. Au bout de 30 ans, ils font 50 cm de haut, vous voyez.
D'accord. Ah oui, effectivement, c'est impressionnant. Il faut y aller. Et puis, une autre île sur cet album, c'est la Grande-Bretagne, avec cette chanson « La Reine est morte ».
Et de nous avoir épargné, d'avoir veillé sur nous comme une vieille tante excentrique et fortunée. La reine est morte et le peuple des fourmis est gonflé de tristesse. Elle était forte et chacun remercie la bonté de son altesse. La reine est morte et on revoit l'histoire d'une vie ou d'un pays. Naissance, mariage et enterrement, guerre, pandémie et autres tremblements. Nous étions dans le même bateau, nous voilà cale, vous au carré. Dieu sauve la reine, c'est déjà ça, et pour les autres,
et la chanson s'appelle La Reine est morte, hommage à la reine Elisabeth, évidemment. Comment la reine d'Angleterre est devenue la reine des fourmis? Racontez-nous un petit peu.
C'est vraiment
un poids assumé maintenant.
Oui, j'assume. Je suis toujours étonné que les humains aient besoin de se choisir un chef ou une chef. Et donc, c'est une question qui m'obsède un petit peu. Et quand j'ai vu que le monde entier était triste de perdre la reine, parce que finalement, c'est quand même, quand on dit la reine, on pense souvent à cette reine-là. Et j'ai écrit un poème tout de suite, que j'ai publié sur le net. Et puis j'ai eu beaucoup de réactions et je me suis dit, bon...
Il se passe quelque chose.
Ça vaut peut-être le coup d'en faire une chanson.
Ouais, d'accord, tout simplement.
Tout simplement.
Alors, donc c'est en fait la chanson triste de l'album, si j'ose dire, et elle est quand même pas si triste que ça, parce qu'elle est pleine évidemment d'esprit et pleine d'humour. L'album, je le répète, s'appelle Soyez heureux. Et quand on regarde tous vos titres d'album, bah, c'est vrai qu'ils sont très positives attitudes. Un voyager léger, c'est quand même mieux que de voyager alourdi. Tout va bien. Ouais. Peau neuve, renaissance, résurrection, formidable. Hip hip hip, alors évidemment, on a envie de rajouter Hourra. Bref, quand on regarde votre discographie, on se dit que votre activité, ça consiste à essayer, à faire tout ce que vous pouvez pour rendre les gens heureux.
On fait de notre mieux. Moi, c'est bizarre aujourd'hui, effectivement, de se dire qu'on passe notre temps à essayer de fabriquer du bonheur à la fois pour nous. C'est notre première responsabilité. On est a priori dans un pays libre où on doit honorer cette liberté, l'état de paix dans lequel on vit. C'est vrai, c'est pas simple. Mais donc j'ai envie, moi, de profiter du temps, de l'espace, de la liberté que j'ai, de vivre aussi sans violence et sans discrimination en ce qui me concerne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent actuellement de violence et de discrimination. Il faut honorer la place qu'on a, la chance qu'on a de pouvoir faire des choses et, si possible, transmettre du bonheur.
Thierry Chazelle, écrire une chanson, la partager avec un public, c'est aussi une forme de bonheur?
C'est le seul qu'on a trouvé, C'est la place qu'on a trouvée dans le monde et c'est une place qu'on a voulu le plus inoffensive possible. Parce que quand on fait des choses dans le monde, ce n'est pas toujours des choses positives. Il me revient en tête cette phrase d'Henri Gougaud, qui est malheureusement
disparu,
décédé et qui était un conteur formidable.
On
et
l'a reçu dans l'émission, c'était un très très grand souvenir.
Voilà, et un auteur de chansons qui disait « Les gens souvent confondent la vie et le monde. » Quand ils disent que la vie est dure, en général, ils veulent dire que le monde est dur. Mais la vie, c'est aussi l'herbe qui pousse entre deux dalles de béton, et ça doit être célébré.
Merci beaucoup à tous les deux, Lily Crow et Thierry Chazel. L'album s'intitule donc « Soyez heureux », il est d'ores et déjà disponible et vous serez tous les deux en concert le 26 septembre en Normandie, à Sotteville-lès-Rouen, donc pas très loin du Havre,
et pour le coup, hein,
Thierry Chazel. Le 6 octobre, à Erquy, alors cela c'est toujours en Bretagne, mais assez loin du golfe du Morbihan, c'est plutôt en Bretagne nord, dans les Côtes d'Armor. Le 26 octobre, à Pénétin, donc là pour le coup c'est plutôt au sud, du côté du Morbihan, le 6 avril 2025 à Bourges, dans le cœur de la France, et puis il y a une tournée grande ville qui pointe aussi le bout de son nez. On n'a pas encore les dates très très précises, mais vous pouvez vous référer à votre site internet, vous donnez l'adresse, Thierry Chazel.
Lily plus Thierry en toutes lettres, le plus y compris .com.
Merci beaucoup à tous les deux.
Babylonia. La soledad te corroe.
NL Caribe, Stoy Triste, Meridian Brothers dans VMDN et dans la playlist RFI de ce mois de juin.
C'est l'heure de Café Polar.
Ouais, et c'est sur ce générique toujours aussi angoissant que s'ouvre notre Café Polar, qui sera aussi le dernier de la saison, puisque la semaine prochaine nous serons à Avignon. Mais rassurez-vous, évidemment, le Café Polar fera son retour à la rentrée au début du mois de septembre. Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui pour finir en beauté, si j'ose dire?
Eh bien, comme chaque semaine, vous le savez, je choisis toujours des sujets qui vont vous étonner, autant qu'ils vont vous faire frémir, enfin, je l'espère. Et là, j'innove encore en vous proposant à la fois de la non-fiction, mais aussi du fantastique, avec un récit intitulé « Les fantômes du lac ».
Côté étrange avec les fantômes, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous appelez de la non-fiction, Catherine ?
Eh bien, c'est ce genre littéraire qui est né aux États-Unis et qui fait florès en France depuis quelques années, où des journalistes enquêtent au long cours sur des faits divers, par exemple Truman Capote dans les années 60 et son célèbre « De sang-froid », et qui ensuite, dans un récit très détaillé, racontent à la fois l'affaire qu'ils ont choisi d'approfondir, mais aussi étape par étape ce qu'ils ont découvert sur le terrain, un peu comme des détectives du réel. Et ici, c'est Manon Gauthier-Faure qui, après son remarquable premier livre « Les pièces manquantes » en 2021, où elle revenait aussi sur la disparition de son propre père, là, elle s'attaque à une histoire glaçante, à un « cold case », comme on dit en bon français, la mort non élucidée, il y a presque un demi-siècle, de deux petites filles, 11 et 12 ans, retrouvées noyées dans le Grand Est français. C'est l'autrice qui raconte les circonstances.
Alors, on est en 1978 dans ce village de la Marne. Village de la Marne qui est en proie souvent à des crues. C'est un village où l'eau, et d'ailleurs dans le livre, j'essaie de restituer ça, l'eau a une place vraiment très omniprésente. Voilà, et il pleut depuis des jours. Ces deux sœurs qui s'appellent Marielle et Nathalie sont parties à la chasse aux escargots, dit-on. Elles ont une heure à laquelle elles doivent rentrer, mais l'heure passe, elles ne rentrent pas. Et évidemment, la famille commence à s'inquiéter. Le père, notamment, sort dans le village pour les chercher. Et puis, les recherches durent. Et on finit par les trouver dans ce qu'on appelle, les noms sont un peu un trou d'eau, un lac, un étang. Enfin, voilà, on les retrouve noyées toutes les deux.
Trois jours plus tard.
Et on les retrouve dans une position très particulière.
Alors, on a dit longtemps qu'on les avait retrouvées main dans la main, avec leurs bottes remplies d'eau, et certaines personnes ont même dit qu'elles étaient vêtues de leur robe de communiante, parce qu'elles devaient bientôt faire leur communion. C'est tout de suite, moi, une image aussi très forte et qui fait appel à, tout de suite à l'imaginaire. J'en parle dans le livre. Moi, j'ai tout de suite revu ces fameuses sœurs de tout droit sorties de Shining, de Stephen King.
Les jumelles.
Et c'est vrai que ça a fait appel tout de suite à quelque chose de... Oui, c'est très imagé, c'est très scénaristique, si je puis dire.
Bon, on a un fait divers tragique, effectivement, Catherine, mais où sont les fantômes ?
Eh bien, figurez-vous que sur le lieu même où les corps des enfants ont été placés après avoir été sortis du lac, une maison de retraite a depuis été construite. Mmh. Un EHPAD, comme on dit aujourd'hui. Et depuis plusieurs années, des gens sur place affirment qu'il s'y passe des événements paranormaux. Donc, Manon Gauthier-Faure est allée enquêter dans ce lieu hanté. Et voilà ce que lui ont dit les témoins.
La première fois que j'y suis allée, j'ai rencontré d'emblée deux, voire trois aides-soignantes qui me disent plusieurs choses. Qui me disent déjà que des résidentes, beaucoup de femmes, c'est un livre dans lequel il y a essentiellement des femmes. Donc, on me dit que des résidentes, essentiellement, voient et entendent des petites filles.
Viens jouer avec nous.
Ça se manifeste surtout le matin quand on leur apporte le petit déjeuner. Elles disent « Ah, les petites, les petites sont encore venues cette nuit. Faites attention, il y a les petites ici. Ne leur faites pas mal. J'ai encore dû me pousser pour laisser la place aux petites. »
À jamais.
Et Ce qui a frappé quand même l'équipe soignante, l'équipe médicale, c'est que ce sont des femmes qui rapportent ces faits qui, pour la plupart, ne se connaissent pas, qui, pour certaines, sont arrivées la veille et ont passé une seule nuit à l'EHPAD, qui aussi ont des gros problèmes d'élocution, donc qui d'habitude ont du mal à s'exprimer, et qui racontent surtout la même chose. Ces petites filles, elles sont souvent deux, elles sont souvent châtains, on en vient d'ailleurs, les personnes en viennent à décrire oui, leur aspect même physique, la façon dont elles sont habillées. Donc on me raconte déjà ça. Et puis l'autre pendant, c'est que les aides-soignantes, elles-mêmes, encore une fois beaucoup de femmes, c'est un peu inhérent à la profession, mais voient aussi, ont été elles-mêmes témoins, victimes, si je puis dire pour certaines, de phénomènes étranges.
Des portes qui claquent, qui ne s'ouvrent plus, des bruits étranges, des lumières. Effectivement, il y a tout un faisceau quand même de choses un peu surnaturelles.
Oui.
Rappelle-toi ce que Monsieur Aloran disait. C'est comme des images dans un album d'Ali. C'est pas pour de vrai.
Bon, c'est le genre de livres à lire évidemment à 2h du matin à peu près, Catherine, hein, y a des scènes qui donnent vraiment la chair de poule, mais comment expliquer ces phénomènes attestés par de nombreuses personnes et surtout comment interpréter la présence de ces deux spectres si longtemps après?
Alors moi je n'ai pas de contact direct avec l'au-delà.
Je ne sais pas ce qu'on m'a dit, mais bon.
Mais après... ce que je sais sur ces présences après la mort, c'est que souvent c'est lié au fait que les disparus ne peuvent pas quitter le monde des vivants s'ils ont encore des choses à faire ou à dire. En d'autres termes, on pourrait imaginer, et c'est mon cas, que ces deux petites filles essayent de nous dire comment elles sont décédées. Puisque l'enquête a été classée sans suite, on ne sait toujours pas si c'est un accident, un double suicide ou un homicide involontaire. Et ce manque de clarté, il faut dire, est peut-être dû au fait également qu'elles appartenaient à une famille pauvre de 7 enfants qui a toujours vécu à l'écart du village. Manon Gauthier-Fort.
C'était une famille marginale, c'était une famille qui ne venait pas aussi du village, qui arrive déjà avec tous les enfants, à peu de choses près. Ils arrivent comme ça avec toute cette fratrie. Alors, ils sont marginaux parce que soit eux ne veulent pas s'intégrer, soit on ne veut pas les intégrer. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore bien réussi à décortiquer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on les juge beaucoup parce qu'en effet, ils sont très pauvres. Que les enfants se passent les vêtements de génération en génération, vêtements parfois un petit peu troués. Enfin voilà, on sent que c'est des gens qui vivent de peu, qui sont peut-être pour le papa un petit peu renfermés, un petit peu durs. Et je pense que ça, oui, ce statut, le statut de la famille a beaucoup joué aussi sur la façon dont on a complètement effacé et mis un voile sur ce drame, oui.
Est-ce que ça a pu nuire à la résolution de l'affaire selon vous ?
On m'a dit, on a pu me dire en effet que des personnes hautes placées dans le village avaient des comportements un petit peu déviants. Bon, il est question d'un, je le dis, il est question d'un exhibitionniste dans l'affaire. Alors, évidemment, un exhibitionniste n'est pas un assassin. Mais voilà, on sent qu'il se passait des choses un petit peu aussi étranges parfois dans ce village et que oui, peut-être que des gens... ont été un petit peu protégés, c'est un grand mot, mais peut-être que toute la lumière sur cette affaire n'a pas été faite de par le statut de certaines personnes, oui, peut-être. Même s'il y a eu une enquête et des gens interrogés, évidemment.
Alors ce mystère, il est toujours entier, hein. Depuis plusieurs décennies, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Est-ce que pour autant l'enquête de Manon Gauthier-Fort a eu des conséquences, Catherine ?
Alors si rien n'a évolué du point de vue de la justice, l'affaire n'a pas été rouverte. Il s'avère en effet que la journaliste, avec son livre, a fait un peu bouger les lignes. Par exemple, un passeur d'âmes a essayé de conduire les fantômes vers la lumière, mais rien n'est encore sûr. En tout cas... Manon Gauthier-Fort s'est rendu compte que sa présence avait laissé des traces et que le livre avait eu des effets.
Oui, j'ai l'impression que les choses bougent un peu dans la commune. Ça a réveillé un petit peu, oui, les consciences. Les gens en parlent beaucoup. Je sais que les gens ont beaucoup voulu lire mon livre aussi. Et je trouve ça assez joli parce que je croise beaucoup de gens de la région, pas forcément de la commune, mais de la région, qui ont depuis entendu parler de l'histoire... et qui se rendent sur la tombe des petites filles Et il y a une jeune femme qui m'a dit il y a quelques mois, comme ça, pendant une rencontre en librairie, qu'elle avait apporté des fleurs. Et rien que ça, oui, ça me fait plaisir que leurs souvenirs rejaillissent un petit peu, alors qu'on les avait complètement oubliés. Et je le dis à un moment dans le livre, je pense que ce sont aussi deux enfants qui étaient un petit peu effacés, oubliés même de leur vivant. Et le fait qu'on en reparle... D'ailleurs, il y a un personnage aussi important à la fin, on va peut-être en parler, mais c'est j'ai retrouvé leur grande sœur. Et d'ailleurs, leur grande sœur, avec l'accord de leur papa, auquel j'ai pas parlé, parce que je pense que c'est... Enfin, c'est pas je pense, je sais que c'est encore très très douloureux d'évoquer leurs souvenirs pour lui, mais tous les deux ont tenu à ce que leur prénom... Voilà, elles s'appelaient vraiment Marielle et Nathalie. Pour le coup, j'ai beaucoup anonymisé les lieux, les noms, mais pas les leurs. Et leur grande sœur m'a dit « Je suis très contente qu'on ait gardé leur prénom. » Parce que voilà, le voir comme ça, écrit noir sur blanc sur ces pages, ça les fait vraiment un petit peu... Ça les ressuscite vraiment un peu, quoi.
Voilà un livre qui ressuscite deux enfants. Je ne vois pas de plus belle... Conclusion. Je rappelle donc que Les Fantômes du Lac de Manon Gauthier-Fort a été publié aux éditions Marchiali et que l'intégralité de ma rencontre avec l'autrice est disponible sur le podcast Café Polar.
Et on salue Apolline Vernon qui, chaque semaine, met en onde avec le talent qu'on lui connaît ce Café Polar. Apolline qui vous accompagne aussi dans l'aventure Littérature sans frontières. Qui sera votre invitée demain, Catherine ?
Alors demain, c'est un avant-goût des Jeux Olympiques avec Aurélie Bambuc qui raconte le parcours exceptionnel de ses parents, Roger Bambuc et Ghislaine Barnet, qui ont participé à plusieurs JO et qui ont été même les pionniers de l'athlétisme antillais. Son livre s'intitule « Mes parents, ce couple de champions ».
Quant à nous, nous recevrons le musicien malien Sidiki Diabaté, extrait de son titre « Champion » justement, dans la playlist RFI de ce mois de juin.
Nous, on est des champions.
Nous, on est des champions.
Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais.
Nous, on est des champions.
Nous, on est des winners.
Nous, on est des winners.
Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais.
Nous, on est des winners.
Avec fond de ma championnée.
Championnée, championnée.
Champion, 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 champion.
Nous sommes des battants, nous sommes des guerriers, guerriers. Nous sommes des gagnants, 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 toujours devant, devant. Nous sommes des winners, winners.
Champion, le titre qui donne son nom au dernier album de Sidiki Diabaté, au dernier single. On en parle demain avec lui et vous m'en direz des nouvelles.